Bonjour. Ça fait quelque temps, j'ai pas compté en temps, que nous sommes en voyage dans la première épître aux Corinthiens et on arrive au chapitre 11. Alors il fallait, c'est un long chapitre, je vous avoue tout de suite que j'ai pas réussi à choisir quoi aborder, donc je me suis dit le plus simple, j'aborde tout. Du coup, j'espère que vous avez du temps. Quelques petites remarques de précision au départ, ça me semble important. Comme toute la lettre aux Corinthiens, c'est un texte qui traite tout d'abord de problématiques qui se sont passées dans une église spécifique à Corinthe, en Grèce, au 1er siècle, après Jésus-Christ. C'est d'abord cela que ce texte nous dit. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que en lisant, alors, une bonne partie de la Bible, mais spécifiquement ces textes, on va être confronté à cette question, d'ailleurs une question qu'on devrait se poser souvent, qu'est-ce qui est des vérités contingentes et qu'est-ce qui est des vérités permanentes? Qu'est-ce qui est contextuel et qu'est-ce que je peux prendre aussi rapidement aujourd'hui? Quelle partie est-ce que je peux le dire et je peux me dire en moi-même, vas-y, et fais de même. Et quelle partie je vais me dire, tiens, ça va être compliqué. Alors ça veut dire qu'on doit le faire. Voilà, bon. Quelle partie? Je vous avais dit une fois aussi, ça c'est les petits mots théologiques, il faut quand même qu'on les sorte, quelle est la loi apodictique et quelle est la loi casuistique? Quelle est la loi qui demeure? Aime ton prochain comme toi-même, aime ton ennemi. Quelle est la loi casuistique? Vous le verrez. Les hommes n'ont pas le droit d'avoir les cheveux longs. Qu'est-ce qui est littéral? Et donc cette question, qu'est-ce que je vais lire littéralement? C'est vrai, au verset 14, on ne va pas le montrer tout de suite, mais c'est un excellent exemple qui nous est dit que c'est une honte pour les hommes d'avoir les cheveux longs. Assez vite, en regardant autour de nous, on se dit « c'est pas si simple ». Assez vite, si on a lu une autre partie de la Bible, et notamment Samson, on se dit « c'est pas si simple ». Si on a aussi compris ce qu'étaient les Naziréens et que les cheveux longs étaient un signe de leur vocation, on se dit « c'est pas si simple » et qu'il y a peut-être quelque chose de contextuel. Et ça, c'est le verset 14 du chapitre 11. Donc on voit bien là que ça nous oblige à prendre un tout petit peu de distance et nous dire que Paul fait quand même pas mal d'affirmations contextuelles. Finalement, il se retrouve dans une église, il voit quantité de choses. Alors ce qui est bien avec Corinthiens, c'est qu'il voit quantité de choses qui sont quand même compliquées, qu'il aime pas trop, donc il les corrige un peu. Et puis nous, plutôt que de prendre juste la correction, on devrait se dire pourquoi il fait cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que ce qu'il y a derrière, les valeurs qui sont derrière, ça, on n'a pas le choix de les mettre en pratique. Maintenant, la manière dont il va le faire, ça, c'est peut-être plus discutable. Je prends des gants, là, parce qu'on arrive sur des textes compliqués. Ouais, ça, c'est juste une petite question. Je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais je le dis quand même. Je me suis posé la question, si Paul avait su que ces textes traverseraient l'histoire, qui serait reconnu comme parole de Dieu et qu'il aurait vu tout ce qu'on en a fait, je me demande s'il les aurait écrits de la même manière. Ou s'il serait dit, oula, purée, si j'avais su ce qu'ils en font, j'aurais peut-être écrit ça de manière diverse. Mais on n'en sait rien. Alors voilà, ils sont là, reconnus comme parole de Dieu. Et on va donc chercher ensemble à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Seigneur, ta parole est ta parole. Elle a été écrite en un temps. On l'a aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et puis, ça nous interroge, ça nous pose des questions. On la regarde avec notre intelligence, mais on veut aussi te demander l'aide de ton esprit pour qu'on puisse comprendre vraiment ce que tu as à nous dire. Amen. Chapitre 11. S'il n'est pas projeté, vous avez tous vos Bibles, donc ça ira bien. Je saute le verset 1, qui est la conclusion du chapitre 10, et je commence au verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Mais je veux cependant quand même que vous sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous ne mettez pas ça en pratique, visiblement. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'autres rasés, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se voiler la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme et tout, en fait, vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est une question. La nature en elle ne vous enseigne pas. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Et j'adore la conclusion. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume. Ni les églises de Dieu. Point final. Quelqu'un a quelque chose à redire sur ce texte? C'est peut-être ça qu'on devrait remettre, lire un peu littéralement et mettre en pratique. Nous n'avons pas l'habitude de contester. Je suis très conscient que ce texte a été lu de manière très diverse. Et notre arrière-plan culturel, notre âge, notre éducation religieuse va faire que l'on aborde ce texte avec des lunettes vraiment différentes. Et je sais aussi que ce matin, vous allez entendre que ma lecture, mon regard, mon interprétation. Alors examinez toute chose et retenez ce qui est bon. Si je regarde l'histoire et la manière dont on a interprété ce texte, je suis obligé d'admettre qu'il a été pris souvent assez littéralement. Et avouons que les attitudes qui en ont découlé n'ont pas toujours été très probantes ou glorieuses, à mon sens. Oui, dans l'histoire, il y a une domination masculine qui s'est justifiée par ces textes. Le tout est de savoir si la domination masculine est une vérité que Dieu veut, ou une vérité culturelle, ou une vérité qui est là à cause du péché. Qu'est-ce qui fait que nous en sommes là, et qu'est-ce que ces textes nous disent? Est-ce qu'on est vraiment dans cette dynamique-là? Donc, est-ce que c'est vraiment le texte qui nous dit cela, ou est-ce que c'est la culture qui nous impose? Et quand on l'a lu de cette manière, et que la culture pensait la même chose, c'était assez simple de dire « ils ont raison ». Simplement, on est dans une autre culture aujourd'hui. Il y a hashtag MeToo, il y a les questions de genre. Qu'est-ce qu'on fait de ces textes? Alors, j'avoue, avec un peu d'humour, si on ose avoir un peu d'humour sur les questions de genre, je me suis dit « les gens non-genrés, c'est plus simple. Ils sont ni hommes ni femmes, ils ne se posent pas question qui est chef de qui. » Mais je ne sais pas si on ose rigoler là-dessus, donc je ne le dis pas. Et si on veut le prendre littéralement, on va prendre sérieusement un contre-pied par rapport à la société. Donc que faire de ces textes? Je ne vais pas tout aborder, et je vais regarder surtout le verset 3. D'un côté, il nous est dit que l'homme est le chef de la femme. C'est vrai. Mais il est aussi dit que Christ est le chef de l'homme et que Dieu est le chef du Christ. Donc, même si on regarde ce texte sous un angle hiérarchique, où effectivement l'homme serait le chef au sens strict du terme, il n'est pas le chef suprême. Il a Christ et Dieu au-dessus de lui. Et c'est pas n'importe qui. Ce qui fait que, à mon sens, la manière dont il doit se comporter, si on le prend sous cet angle-là, est sous le regard du Christ, est sous le regard de Dieu. Ce qui, à mon avis, fait qu'on ne peut pas agir comme on veut. Parce que ces personnes-là, Dieu et le Christ, ont une exigence d'excellence dans les attitudes qui est assez forte. Soyez parfaits comme Dieu est parfait. Donc même si on le prend dans un sens hiérarchique, la notion de la manière dont on va entrer en relation avec la personne du sexe opposé doit vraiment nous interroger de la manière dont Dieu et le Christ le font. Mais on peut aussi se poser la question si ce texte ne veut pas simplement nous dire, eh bien, c'est un appel à savoir comment se comporter. Et qu'il n'y a pas là une question de hiérarchie. Le but n'est pas de dire qui est le chef de qui. Alors le problème en français, c'est que le mot « chef », on a toute une sorte d'image qui fait que ça nous influence un tout petit peu. Mais il y a peut-être la question du comportement que l'on doit avoir, et que c'est peut-être plutôt ça alors qui est mis en avant. Il n'est pas impossible que les hommes de l'époque, par leur culture, avaient un rôle plus dominant, c'est même assez reconnu. Mais comment l'exerçaient-ils ? Et peut-être que c'est Paul qui vient et qui dit « Oui, c'est vrai, par ta culture, tu as ce rôle-là, mais alors tu vas l'exercer comment ?» Et c'est peut-être ce manière d'être, manière de vivre, comportement qui va être mis en question. Ok, tu veux être le chef, sois le chef. Mais alors, sois-le comme le Christ l'est avec toi. Ah, mince, exigeant. En grec, le mot « chef » peut être traduit par « tête », peut être traduit par « source ». Il faut toujours faire un peu de grec, hein, je vous l'ai déjà dit, ça justifie un peu ce pourquoi on est là. Ça signifie « source » ou « supérieur hiérarchique » quand même. Alors je préfère plutôt m'interroger, plutôt que de dire « est-ce que c'est la source ou est-ce que c'est le supérieur hiérarchique ?» Je préfère me poser la question « comment l'autorité s'exerce dans la Bible ?» Comme on l'a dit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Christ est le chef de l'Église. Mais quelle autorité nous donne-t-il ? La question, à mon avis, qu'on doit tout le temps se poser, c'est comment l'autorité du Christ se vit concrètement ici, aujourd'hui, dans les relations, dans les couples et dans l'Église. Ça paraît une question anodine, mais quand on pose une structure d'église, on doit se poser la question, finalement, c'est pas qui gère qui, c'est comment l'autorité du Christ s'exerce-t-elle? Et à qui elle est donnée? Et comment on va la vivre? C'est ça la question fondamentale dans une église quand on pose une structure. C'est pas comment on va fonctionner. C'est comment l'autorité du Christ s'exerce-t-elle? Et là, on se rend compte que ça va à l'encontre de nos cultures. Parce que deux mots reviennent régulièrement dans la manière de vivre l'autorité, c'est obéissance et amour. Il faut obéir, c'est vrai, mais il faut aimer. Et ces deux mots sont régulièrement là, dans la Bible, et dans toute l'histoire de l'Église aussi, et notamment dans les pères de l'Église. Quand ils ont géré, ils ont dit « il faut obéir et il faut aimer ». Donc j'ai fait cette parenthèse sur l'autorité de l'Église pour dire finalement, quand on dit que quelqu'un est le chef de l'autre, la question c'est comment l'autorité s'exerce, et l'autorité s'exerce par l'obéissance et par l'amour dans la Bible. Et quand il dit que le Christ est cela et que nous devons l'être, il ne fait qu'affirmer cette question-là. Vous devez obéir, vous devez aimer. Paul, il affirme d'un côté, et puis ensuite, il nuance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, il y a des grosses affirmations. J'entre pas sur la question des cheveux, parce que c'est très contextuel. Mais je veux venir au verset 11 maintenant.
Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme et l'homme sans la femme. Alors, ce qui semblait clair au verset 3, qui est le chef de qui, tout d'un coup, on nous dit, l'un n'est pas sans l'autre. D'une hiérarchie qu'on imaginait, on arrive à une réciprocité. T'as besoin de l'un, t'as besoin de l'autre. Et remarquez qu'au verset 11, Christ n'est plus là-dedans. La réciprocité sont dans les gens de même créature, de même essence. Voilà, Christ, visiblement, lui, il n'a pas besoin de nous. C'est pas écrit « Christ n'est pas sans l'homme ». Là, tout d'un coup, il y a une différence très claire entre qui est Dieu et qui nous sommes. Ce qui dit que la manière dont on va entrer en relation entre nous, c'est vraiment d'une manière égale et réciproque. Il nuance encore plus, car de même que la femme a été tirée de l'homme, l'homme, tu nais de la femme. C'est la même chose. Pourquoi il dit cela? Parce qu'on justifiait par la création que l'homme était le premier et puis que la femme était seconde. Il dit, oui, mais ta mère, elle était avant toi. Réfléchis. Il dit pas autre chose, Paul. Si tu veux jouer au qui est le premier, il y a quand même beaucoup de monde avant toi. T'es pas le premier. Donc ça joue pas ton argumentation. Il nuance tout simplement ce qu'il est en train de dire. Et c'est souvent ça dans la Bible. Nous, on aime bien que ça soit l'un ou l'autre. Et Dieu, il nous dit, pas de chance, c'est l'un et l'autre. Et tout vient de Dieu. Ça, c'est la vérité ultime, non contextuelle. Tout vient de Dieu. Et ça, ça doit nous habiter. On l'a dit pour la collecte. Et j'aime beaucoup, je m'excuse, je dis souvent cette phrase, mais j'aime beaucoup John Stott qui dit « La question n'est pas combien je donne, mais combien je garde d'argent qu'appartient à Dieu pour moi et mon petit plaisir personnel. » Tout vient de Dieu. Et ensuite, je gère, ce qui est très différent. On est donc créé à l'image d'un Dieu trinitaire. Et c'est ça, le rapport au Christ, le rapport à Dieu, à l'image d'un Dieu trinitaire qui vit une relation d'égalité, mais aussi, j'ai envie de dire, de personnes qui obéissent les uns aux autres et nous dit tout simplement, faites de même. Vivez vos relations comme nous, dans la Trinité, nous vivons la relation. Et c'est là où je dis qu'il y a une excellence de Dieu qui est exigée. On ne peut pas conclure cette partie-là sans dire, si vous avez quelque chose à contester, ce n'est pas notre coutume. Verset 16. Je m'arrête là pour cette partie. J'espère que j'ai été plus ou moins clair. Et je vous laisse réfléchir aux questions de qu'est-ce qui était contextuel et de qu'est-ce qu'on doit garder pour nous aujourd'hui dans nos relations. Et suite à cela, Paul continue, et ce n'est pas anecdotique, qui parle du deuxième problème dans l'Église. Après, c'est la Sainte Cène. Verset 17. En effet, cette recommandation, c'est que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous imaginez, vous recevez une telle lettre? Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et en plus, je le crois, il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Jolie Sainte Cène. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Est-ce que je vais vous louer pour cela? En cela, je ne vous loue pas. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, et quand même un assez grand nombre décèdent. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement sur vous. » Puis comme c'est compliqué à Corinthe, il termine en dit « Ben, je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. » Il y en a déjà deux assez compliqués. Visiblement, il y en a d'autres. Il faut que je vienne pour mettre carte sur table. Un texte un peu plus connu. Pourquoi il le met après ce qui a précédé ? Ben, il dit « Voilà, il y a les relations hommes-femmes où il faut que vous appreniez peut-être une autre dynamique. » Et puis, d'une manière générale, il y a une relation entre vous. Hein. Il y a des riches, il y a des pauvres. Et puis, les riches sont riches, ils mangent bien, ils boivent bien, et ils boivent pas que de l'eau. Et puis, il y a les pauvres, qui mangent pas, qui ont faim. Et tout ça, en plus, vous prenez la scène pour s'y marquer que vous êtes ensemble. Ça va pas. Ça joue pas. Il y a donc un problème. Chaque fois que je lis cet épître, j'avais dit que je me dis quand même, l'Église, c'est quelque chose. Et si on croit que c'est par sa nature qu'elle existe et qu'elle dure, faut lire Corinthiens. C'est la grâce de Dieu qui fait que l'Église existe encore aujourd'hui. Un chapitre, toutes ces problématiques humaines, des gens qui n'arrivent pas à s'entendre, des gens qui dominent les autres. Heureusement qu'il y a le miracle de Dieu. Mais revenons à la Sainte Cène. Comme je l'ai dit, il y a des riches, il y a des pauvres, et une des problématiques, c'est qu'il n'y a pas de partage entre eux. Et la fin du texte nous dit, bah, c'est un jugement contre vous, parce que visiblement, il y en a qui sont malades, il y en a qui meurent, et ce n'est pas qu'une condamnation spirituelle, c'est peut-être simplement qu'il y en a qui meurent de faim, ou qui sont malnutris, et que ça ne va pas. Et que ça, c'est un jugement contre vous-même. Et c'est pas un jugement spirituel, c'est juste que vous agissez d'une telle manière que les gens, ben, ils en meurent. Et c'est très concret. Et c'est ça qui est en train de se passer. Ils ont des gens autour d'eux qui meurent juste parce qu'ils partagent pas. C'est pas juste la condamnation de Dieu qui arrive, c'est leur action qui a une conséquence directe. Et là, j'espère que dans nos têtes, on commence tout de suite à réfléchir parce qu'on va bientôt prendre la scène. Ah, mes actions, quel impact direct ça a sur les autres. Quel jugement Paul viendrait nous dire en disant « Tu prends le pain et le vin. » Et alors, qu'est-ce que tu vis? Quelle relation vous avez les uns avec les autres? Quelle communauté vous vivez? C'est ça qu'il est en train d'interroger en premier lieu. Et comme il prenait la scène en même temps que le repas, eh ben tout ça, ça se mélangeait. D'ailleurs, dans l'histoire, on dit que c'est à partir de là qu'on a séparé les repas de la Sainte Cène. Parce qu'on mélangeait tout, et du coup, le corps du Christ et le sang n'avaient plus de sens. C'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'il mange le pain et boive de la coupe, car celui qui mange sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. Alors dans notre monde individualiste, on a souvent lu et compris ce texte, et j'imagine que c'est ce qu'on fait avant chaque Sainte Cène. On s'examine personnellement pour voir s'il n'y aurait pas un petit péché niché quelque part, qu'on doit confesser, et pouvoir prendre dignement la Sainte Cène. Et le discernement du Christ, c'est ben, dans la prière, et avec l'Esprit de Dieu, comprendre et se rappeler et faire mémoire de ce que le Christ a fait pour nous. Et souvent, on le comprend dans ce sens-là, et c'est juste, et c'est bien. Mais le texte va beaucoup plus loin que ça. En fait, quand il dit le corps, est-ce que vous discernez le corps? Il y a le sien, c'est vrai, mais le corps du Christ, c'est l'Église aussi. Est-ce que vous discernez le corps du Christ quand on prend le pain et le vin? Et avec ce que vous vivez, j'ai pas l'impression. Ça fait un petit lien, moi j'ai été marqué par la prédication dimanche dernier. Ce que vous faites à ces petits, c'est à moi que vous le faites. Quand c'est que tu nous as dit que tu avais faim? Ben quand l'autre avait faim. Quand c'est que tu étais malade? Ben quand l'autre était malade. Discerner le corps du Christ en prenant le pain et le vin, c'est discerner les besoins du corps du Christ. Et alors tenter d'une manière ou d'une autre de mettre un peu d'égalité dans tout cela. Et tout d'un coup, ça ouvre. La Sainte Cène, c'est plus Dieu et moi, c'est Dieu et nous. Le corps du Christ, c'est l'Église, c'est pas que moi. Est-ce qu'on discerne le corps, est-ce qu'il vit quand on prend le pain et le vin? Et d'une manière un peu plus contextuelle, quand il dit discerner le corps, ou est-ce que vous avez... Ben, il dit « faites preuve de discernement », parce qu'il y a une réalité chez les Grecs, c'est que l'ivresse est un signe de spiritualité pour entrer dans la divinité. Et on imagine que certainement, certains devaient être bien ivres et qui discernaient plus rien du tout. Mais à l'époque, c'était considéré comme quelque chose de spirituel, parce que c'était une manière de s'échapper de ce monde pour entrer en relation avec le Christ. Et il est en train de le dire « non ». Donc il est en train de contester leur culture. En disant, on ne discerne pas le Christ de cette manière-là. Il faut avoir un peu les idées claires. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'il ose aller contre la culture de l'époque pour leur dire, ici, entrer en relation avec le Christ, c'est pas comme les autres le font, c'est autrement. C'était pas l'acte spirituel doit changer. Donc il essaye de les sortir de leur habitude culturelle pour leur dire, ayez un tout petit peu de discernement. Je vais résumer la thématique de ce passage en disant que prendre la scène, c'est faire mémoire d'un acte incroyable du Christ qu'il a fait pour nous. Mais c'est aussi méditer sur nos relations les uns avec les autres. Si tu as quelque chose contre l'autre, avant de donner ton offrande, va régler ton problème. C'est ça aussi qu'il nous dit. Et ce n'est pas un hasard si on se rappelle que ce que le Christ a fait à ce moment, c'est pour méditer très clairement sur nos cohérences ou nos incohérences de vie. Prendre la scène, c'est tout cela. Et une première incohérence de vie que les Corinthiens avaient, c'était les relations entre eux et les relations hommes-femmes qu'il essaye de remettre un peu à niveau. Je vous invite à prier.